Je vais présenter un cadre de différentes méthodologies d'analyse des masculinités au cinéma. Et dans le cadre de la culture populaire, le cinéma est un terrain fondamental pour l'élaboration et la négociation des identités de genre. Et pourtant, tout au long de l'histoire du cinéma, ce médium a été un espace privilégié pour la circulation des images hégémoniques du masculin. À partir des années 70, les études de cinéma qui suivent une approche de gender studies ont élaboré plusieurs méthodes pour analyser les images masculines. Cette recherche a eu lieu dans un premier moment, surtout dans le monde anglophone, mais elles se sont successivement affirmées de façon stable dans le panorama de l'Académie internationale. Elles font partie d'une plus grande réflexion critique sur la masculinité dans une perspective féministe qui met en question les notions traditionnelles sur la virilité et l'idéologie sexiste. Il s'agit donc d'un champ de recherche de grande ampleur que je ne pourrai pas résumer ici. Mon objectif sera plutôt de vous donner une idée synthétique de trois perspectives méthodologiques entre les plus reconnues qui ont été développées dans des périodes différentes mais qui sont toujours actuelles et couramment appliquées. Pour distinguer ces trois approches, j'utiliserai un même cas d'étude sur lequel je suis en train de travailler dans ma thèse de doctorat, et notamment la figure de l'acteur mexicain Gael García Bernal. En utilisant sur le même objet les différentes méthodologies d'analyse, je veux souligner le fait qu'à chaque fois, on se pose des questions différentes et on travaille sur des sources différentes. C'est-à-dire que la relation entre la méthodologie et l'objet n'est pas univoque. Il s'agit plutôt d'un rapport dynamique où les deux se déterminent l'un l'autre. La première perspective d'analyse des images cinématographiques du masculin est celle issue de la Feminist Film Theory, un ensemble de recherches menées surtout en Angleterre et aux États-Unis dans les années 70 et 90. Le texte de Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, est considéré comme la fondation de cette ligne de recherche. En utilisant une combinaison de sémiotique et psychanalyse, Mulvey se demande quels mécanismes sont à la base du plaisir de la vision d'un film, et surtout de la forme cinématographique la plus populaire, c'est-à-dire le film narratif hollywoodien. L'hypothèse qu'elle avance est que, à travers du regard sur des figures humaines, le cinéma active deux pulsions sexuelles, le voyeurisme, qui consiste à observer un corps et de le contrôler dans une position de distance, et le narcissisme, c'est-à-dire le plaisir de se reconnaître dans l'image d'une figure humaine. Il s'agit souvent, dans le cas du cinéma hollywoodien et de ses célébrités, d'une figure idéale, plus parfaite et puissante de ce que nous sommes en réalité. Mais l'argument central de l'article de Mulvey est le suivant. Ces plaisirs ne sont pas également disponibles pour les sujets masculins et pour les sujets féminins. Grâce aux procédures de mise en scène, la mise en cadre, la distance entre la caméra et les acteurs, le découpage, etc. Dans la grande partie des films, le plaisir du regard a été scindé entre actif masculin et passif féminin. L'exemple classique de Kehlmann pour montrer ça est la construction des regards dans le film de Alfred Hitchcock. Celui qui regarde est normalement le personnage masculin, qui constitue aussi le principal support de l'identification. Et le corps observé, fétichisé et fragmenté dans plusieurs cadres est celui de la protagoniste féminine. Les plans subjectifs dans lesquels nous voyons ce qu'un personnage voit sont attribués au personnage masculin. Mulvey a compris que les différences de genre ne passent pas seulement par l'histoire, donc quel personnage fait quelque chose, mais surtout elles passent pour les choix formels des compositions du film même. Ce travail a été critiqué dans les années 90 parce qu'il était lié à une idée assez rigide et binaire de différences sexuelles et par conséquent il ne pouvait pas répondre à questions comme quel plaisir trouve une spectatrice femme hétérosexuelle au cinéma, quelles identifications sont disponibles pour les sujets queer et quand la figure masculine est objet et pas sujet du regard, quels mécanismes psychiques sont activés. D'autres chercheurs ont alors considéré des genres cinématographiques où le corps masculin est souvent exhibé, autant sinon plus que le corps féminin. Et ils ont essayé de critiquer l'affirmation de Malvi selon laquelle la figure masculine ne peut pas porter le fardeau de la réification sexuelle. En 1983, Steve Neal publie un essai important sur ce sujet, intitulé « Masculinity as Spectacle ». Il observe que dans certains genres, comme le western, le film d'action, le peplum, c'est un genre historique basé à Rome, en Grèce, ou dans des cadres mythiques, beaucoup de plans sont dédiés au corps masculin. Mais cette insistance est, entre guillemets, légitimée et acceptée, même par le spectateur implicite, qui est bien sûr un homme hétérosexuel, parce qu'il s'agit de scènes de violence entre les hommes. Donc la situation narrative, un meurtre, un duel, un poursuite, etc., justifie ce regard sur le corps masculin, en régnant et réprimant tout potentiel désir érotique impliqué. Donc selon Neal, le désaveu de l'homme érotisme est à la base de la subjectivité masculine hétérosexuelle, d'une façon similaire à ce que Judith Butler va théoriser dans Gender Trouble. La deuxième grande critique au modèle de Malvi concerne la scission du plaisir entre active et passive. Selon Kaja Silverman, par exemple, cette approche ne met pas en discussion l'idée que pour le sujet masculin, le plaisir nécessite d'une position de domination. Il y a en fait des autres lignes de recherche qui considèrent l'expérience même de vision d'un film comme une expérience fondamentalement passive, liée à un plaisir masochiste. Et parmi eux, la référence bibliographique la plus importante est le livre de Kaja Silverman, « Male Subjectivity at the Margins ». Donc, si on applique les idées de Steve Neal et de Kaja Silverman à un film avec Gael Garcia Bernal, qu'est-ce qui se passe? On peut prendre comme exemple « Y tu mamá también » d'Alfonso Cuarón, un film de 2001. Et on observe que le film ne cache pas, mais plutôt mène à l'extrême la tension homoérotique entre les deux protagonistes, Julio, joué par Gael Garcia Bernal, et Tenor, joué par Diego Luna. Les deux garçons partent en voyage ensemble avec une fille un peu plus âgée, Luisa, et les deux essaient de la séduire. Mais finalement, Luisa fera émerger l'attirance réposique entre les deux jeunes hommes. Le film présente alors une variation d'un trope récurrent dans le cinéma mexicain, c'est-à-dire l'amitié masculine comme lieu de vérification de la virilité. Les corps des deux acteurs masculins sont présentés d'une façon spectaculaire, et dans la première partie du film, l'attention des spectateurs et des personnages n'est pas déviée par des scènes de violence, comme il est souvent le cas, mais par la figure de Luisa qui attire les regards des deux garçons. C'est seulement quand les spectateurs arrivent à s'identifier avec elle, avec Luisa, dans la dernière partie du film, que le désir érotique entre Julio et Tenor devient explicite. Dans un article, Maria Josefina Saldana a écrit que dans « Y tu mama también » il y a ce que Freud définit comme une résolution négative du complexe d'Édipe. Les sujets masculins ne suivent pas l'identification avec la figure paternelle et sa introjection comme idéal du moi, mais plutôt il réplique l'attitude d'affection maternelle vers le père. De la même façon que les spectateurs, Julio et Tenor passent à travers une identification avec Luisa pour arriver à expliciter leur désir réciproque. Quelles sont alors les questions posées par cette première méthodologie, par cette première perspective d'analyse? On observe la façon de construire les regards dans le film à travers de la mise en scène et du découpage, les processus d'identification des spectateurs et les pulsions activées par la vision du film. En combinant analyse du langage cinématographique et psychoanalyse, on arrive à tracer la mobilité du désir et on s'éloigne d'une idée fixe et monolithique du masculin. mais dans la première, les premières années de la Feminist Film Theory, le film reste la seule source de l'interprétation. Donc la source est le film et les disciplines impliquées sont la psychanalyse et la sémiologie, l'analyse du langage cinématographique. On passe alors à une deuxième perspective, c'est-à-dire une méthodologie qui intègre les études cinématographiques et le cultural studies, qui considère par contre les films dans leur contexte, c'est-à-dire la société où le film circule et les conditions de production et réception des films même. Parmi les matériaux utilisés, on trouve tous les produits culturels qui contribuent à définir l'image d'une célébrité, dans notre cas un acteur masculin. Ses apparitions publiques, les entretiens pour la presse et les magazines de cinéma, de mode, etc., les campagnes publicitaires, et même les matériaux produits pour les fans sur les réseaux sociaux, ou naturellement avant Internet, les lettres envoyées aux acteurs, etc. L'aspect le plus important de cette approche consiste à relever les contradictions idéologiques dans les représentations masculines. Les identités de genre dans la culture populaire ne sont pas fixes, et même quand elles ont la tendance à reproduire modèles et subjectivités dominantes, il peut y avoir des éléments de subversion à leur intérieur. Il devient alors fondamental pour analyser une figure comme Garcia Bernal et le modèle de masculinité fluide qu'il incarne, de prendre en considération à la fois son rôle dans une publicité de rasoir Gillette et son profil d'artiste engagé, de portrait intime de Che Guevara, d'un carnet de voyage, à son rôle dans Non de Pablo Larraín, jusqu'aux campagnes publiques pour causes humanitaires avec Amnesty International. Et on va faire ça maintenant. On peut comparer par exemple l'image d'Uche incarnée par Benicio del Toro dans les deux films de Steven Soderbergh, Che Guerrilla et Che El Argentino. Prenons par exemple les affiches de films. Le slogan de Soderbergh dit « Tout le monde connaît l'icon, peu connaissent l'homme ». Mais par contre, Benicio del Toro, avec son regard fier et sérieux, cherche un mimétisme justement avec l'icon, c'est-à-dire avec les portraits les plus célèbres du guerrillero. Il s'agit d'une photographie où Che Guevara apparaît stylisé, héroïque et viril, beaucoup plus que dans des autres photographies de sa vie, comme a été montré par Frédéric Maguet. L'affiche de Carnet de voyage, par contre, c'est un film avec Garcia Bernal sur les voyages à travers de l'Amérique latine de John Che Guevara, contraste fortement avec l'iconographie précédente, en montrant un aspect joyeux et insouciant du personnage. Encore juvénile distingue nombreux rôles de Garcia Bernal. Et une des oppositions symboliques des images masculines activées ici est la différence entre garçon et homme. Et indépendamment de l'âge, Garcia Bernal mène avec lui le physique et l'attitude d'un garçon. Et même quand il joue avec une barbe plus prononcée, comme dans Non de Pablo Larraín, l'affiche relativise l'aspect sérieux de l'image avec un arc-en-ciel très vif. Il s'agit du style visuel de la campagne du référendum contre le dictateur chilien Pinochet, idée par un jeune publicitaire joué par Garcia Bernal. Ses rôles, avec le rôle de Che Guevara, a contribué à cristalliser son image d'artiste engagé qui représente les instances pas seulement mexicaines, mais plus en général de l'Amérique latine, comme on verra plus tard. Pour revenir à la barbe et au fait que les images masculines se produisent toujours dans des formes contradictoires, prenons en considération la publicité pour les rasoirs Gillette, où Garcia Bernal a été protagoniste en 2012. Il s'agit d'un produit souvent sponsorisé par des figures plus conventionnellement viriles. Par exemple, dans le même an, 2012, en occasion des Jeux olympiques de Londres, ici en France, le même rasoir était sponsorisé par le nageur Alain Bernard. Avec Garcia Bernal, l'accent passe de la perfection physique au style. Lisons par exemple ce qui répond à la question « Comment décrire tout ton style ?» C'est difficile de le décrire, il dépend fortement de mon humeur, de la journée ou du travail que je suis en train de faire. Je crois qu'on peut affirmer que je suis en évolution constante. C'est quand même particulier, et voilà, le slogan dit Masters of Style, donc c'est quelqu'un qui maîtrise le style, et ils disent je ne sais pas quel est mon style, c'est fluide. Donc cette masculinité fluide est un des modèles émergents dans les dernières années, et Garcia Bernal en est sûrement une figure emblématique. Pour retourner aux aspects méthodologiques, pour cette deuxième approche, c'est important d'un côté le type de source choisie, donc on a dit le produit culturel autour du film et de l'acteur, et de l'autre côté le type de questions qu'on se pose. La méthodologie analytique dérivée de Cultural Studies se distingue en fait parce que premièrement elle s'adresse toujours à des images de grande diffusion qui ont eu un fort impact sur le sens commun et sur le style de vie dominant. Deuxièmement, elle pose l'accent sur les tensions idéologiques à l'intérieur de chaque produit culturel. Dans notre cas, l'image de Garcia Bernal peut produire plusieurs interprétations et identifications contradictoires. On pourrait affirmer que le mélange entre activisme politique et la sphère de la communication publicitaire occulte les enjeux de classe sociale par rapport à la tradition du cinéma engagé. Mais on pourrait aussi affirmer que Garcia Bernal a contribué à séparer deux éléments que dans l'imaginaire mondial sur l'Amérique latine ont traditionnellement marché ensemble, c'est-à-dire la virilité et l'héroïsme politique. Et donc qu'il a ouvert et multiplié un champ de représentation qui était enfermé dans un stéréotype. La troisième approche que j'ai choisie concerne l'utilisation des études postcoloniales et sur la mondialisation dans le cadre du cinéma et de ses figures masculines, tandis que la première et la deuxième approche, qu'entre la première et la deuxième approche, il y avait un vrai changement de paradigme. Cette troisième méthodologie fait par contre légitimement partie de Cultural Studies, donc elle représente plutôt une sous-catégorie de la deuxième approche. Parmi les études publiées sur les masculinités cinématographiques depuis l'an 2000, beaucoup se concentrent sur certains thèmes et problèmes théoriques. Comment représentations racialisées et masculinités sont-elles liées? Comment les transformations politiques et culturelles dues à la mondialisation influencent-elles les images des hommes? Les représentations masculines ont historiquement fourni un soutien à la construction de la communauté imaginée qu'est la nation. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il quand l'idée même d'identité nationale entre en crise? Les deux tendances identifiées dans cette recherche sont opposées et complémentaires. D'un côté, le récit qui concerne la crise de la virilité se reproduit et se lie à l'idée que la nation est en danger. De l'autre côté, il y a nombreux fantasmes de retour et rétablissement d'une virilité intacte et imaginaire qui sont montrés souvent aussi au cinéma. Et si on retourne à Gael Garcia Bernal et à cette approche d'études postcoloniales et sur la mondialisation, il y a différents articles qui parlent de Garcia Bernal en utilisant concept et discours sur la mondialisation. On peut lire par exemple la carrière de Garcia Bernal par le prisme des changements dans la façon de financer et distribuer le film au Mexique après l'accord de libre-échange nord-américain de 1994. Venant d'une industrie basée sur le financement national, dans les années 90, certains réalisateurs mexicains s'éloignent de ces modèles et commencent à établir coproductions avec des autres pays de l'Amérique latine et avec les États-Unis. Je pense en particulier à Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, qui collaborent aussi avec Hollywood et s'adressent à un public et à un marché mondiaux. Il devient alors fondamental pour analyser Garcia Bernal et son modèle de masculinité considérer qu'il s'adresse en même temps à un public national et à un public mondial. À la fois, il s'adresse aussi aux communautés de latino-américaines autour du monde, c'est-à-dire à celles que, selon la définition de Arjan Appadurai, on appelle une sphère publique diasporique. Dans un très important livre sur la sexualité et les masculinités dans l'histoire du cinéma mexicain, Sergio de la Mora, le livre s'appelle Cinemachismo, Sergio de la Mora a écrit à propos de la grande variété de qualités associées à cet acteur. Je cite, Garcia Bernal est un star international, un sex symbole, un esprit progressiste et gentil et une icône pour une nouvelle génération de jeunes Mexicains, chicanas et chicanos, latinos et latinos et latino-américains, une masse critique immense qui rayonne créativité et vitalité et qui voit en le jeune acteur un signe d'espoir. Garcia Bernal représente un jeune latino-américain de classe moyenne, moderne et cosmopolite, avec plusieurs facettes et des strates, expressives, sensibles, sincères, intelligents, qui s'exprime bien, réaliste, qui a les pieds sur terre, capable d'exprimer désirs complexes et jeunes. Il est à la fois féminin et phallique, une pierre précieuse, il incarne les objets traditionnels associés avec la mexicanidad et la modernité mondiale. Donc c'est une figure vraiment polysémique qui arrive à incarner sur soi des qualités contradictoires, et justement parce qu'il s'agit d'une figure qui agit sur le sein mondial, mais aussi dans un cadre national, et s'adresse aussi à une sphère publique diasporique. Aussi dans cette perspective, les nombreuses références à la figure des émigrés dans sa carrière. Du rôle de Octavio joué dans Amores Perros, à la réalisation de 4 courts métrages sur la migration pour Amnesty International, appelé Los Invisibles, et la production avec Canana, qu'il a fondée avec Diego Luna, d'une série de documentaires sur les meurtres de femmes à Ciudad Juárez, et d'un long métrage, Sin Nombre de Cary Fukunaga. Donc il a contribué à des portraits d'émigrés comme acteur, comme réalisateur et comme producteur. C'est important de rappeler cette activité de production et promotion qui est souvent publicisée dans ses entretiens, parce que le fait qu'il est féminisé dans certains rôles qu'il joue n'implique pas qu'il soit perçu dans une position de passivité selon la dualité traditionnelle de l'idéologie sexiste. Au contraire, cette transformabilité et flexibilité lui donnent un avantage stratégique dans les complexes interactions que caractérisent les plusieurs contextes où il se trouve à agir. Pour conclure, une dernière remarque méthodologique. Les 3 approches que j'ai présentées peuvent se recouper, et les études les plus intéressantes sont celles qui arrivent à intégrer d'une façon cohérente plusieurs approches, c'est-à-dire l'analyse du film en détail, le langage cinématographique, la psychanalyse, l'étude du contexte du film dans les autres médias, et des questions plus grandes géopolitiques par rapport aux rapports postcoloniaux ou à la mondialisation, etc. Donc on verra par exemple que dans les livres que je citais avant, Cinemachismo, l'approche analytique des années 70 est toujours présente dans certains chapitres, tandis que dans des autres, on travaille plutôt sur les contextes. Les questions, les sources et les disciplines des premières approches alors sont intégrées et combinées au plus récent entre analyse de l'image, identification aux acteurs et le contexte historique. Le défi est d'interpréter ces éléments hétérogènes pour fournir une vision nuancée. Merci beaucoup pour votre attention.